Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct et merci à vous tous qui nous suivez sur IDFM Radio en FM 98.00, Web Radio, DAB+ et sur notre appli IDFM. Le label L'Amplitude, deuxième volet, bonne pratique des organisations en matière d'emploi, de ressources humaines et d'engagement sociétal. Découvrons un peu plus ce premier label territorial en France pour Et pour compléter notre émission de la semaine dernière sur ce thème, aujourd'hui, vendredi 17 mars, découvrons trois nouvelles activités qui ont fait le choix d'être labellisées et vont nous dire pourquoi avec leur principal responsable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Driss Bziwat. Bonjour Driss. Merci d'être à nouveau sur IDFM Radio en direct dans nos studios. Puisque bien sûr, en tant que chef de projet AGFE, acronyme qui signifie Association de gestion des fonds européens, vous accompagnez ces entreprises labellisées Amplitude. Ce matin, avec vous, nous verrons si ce label est à la portée de n'importe quelle entreprise et les différentes étapes à franchir pour l'obtenir. À vos côtés, Isabelle Auger. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir à notre antenne. Je viens d'apprendre que vous étiez déjà venue plusieurs fois sur IDFM Radio, donc bienvenue à l'économie en direct. Gérante d'une franchise Babichou à Herblay, spécialisée dans la garde d'enfants à domicile. Vous nous direz pourquoi avoir fait ce choix d'activité et de l'avoir doté du label Amplitude. Et parce que vous êtes aussi également présidente de l'association des commerçants d'Herblay-sur-Seine.
C'est ça.
Merci Isabelle. À vos côtés, Lauriane Bossou. Bonjour Lauriane.
Bonjour.
Également ravie de vous accueillir dans cette émission. Directrice de Assiste Famille Formation, présente dans le secteur de la formation au métier de service à la personne. Vous êtes aussi membre du comité d'administration du PLI de Cergy-Pontoise. Vous nous présenterez le panel de ces formations et quels bénéfices vous retirez depuis que vous avez été récompensé par le label Amplitude. Et à vos côtés, Hervé Degnaud. Bonjour Hervé.
Bonjour Jacqueline.
Merci également d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur du centre commercial Les Trois Fontaines, membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, membre du réseau Entreprendre, membre du réseau Initiative, des réseaux que nous connaissons bien ici chez IDFM, membre également du Conseil de développement économique de la communauté de Cergy-Pontoise, des entités donc que nous connaissons bien, et vous nous dévoilerez donc le cœur de votre activité. Et comme les autres invités, en quoi ce label Amplitude constitue une avancée dans la gestion de ce centre commercial des Trois Fontaines. Tout un programme. Bienvenue et merci à tous les quatre d'être les invités en direct de l'économie en direct. Dans quelques minutes, nous allons retrouver notre chronique en géopolitique. Mais avant, je tiens à vous lire un communiqué de presse de 60 000 rebonds en hommage à Guillaume Muliez, dont nous avons appris le décès accidentel il y a quelques jours. Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Guillaume Muliez, président national de 60 000 rebonds. Le président de la Fédération nationale de 60 000 rebonds est décédé le lundi 13 mars 2023 en fin de journée. Emporté en montagne dans un environnement qui lui était cher, il occupait depuis 2016 la présidence de la Fédération nationale 60 000 rebonds qui rassemble les 10 associations territoriales. Depuis sa prise de mandat, il avait œuvré d'arrache-pied à développer 60 000 rebonds, ne ménageant pas ses efforts quand il s'agissait d'accompagner les entrepreneurs en liquidation, pour lesquels il pouvait traverser la France simplement pour prendre part à une réunion mensuelle. Il incarnait la fédération de 60 000 rebonds partout où il allait, des antennes territoriales aux événements de l'écosystème, mais aussi lors des rencontres avec les partenaires, jusqu'aux wagons-bars des TGV dans lesquels il aimait échanger avec les entrepreneurs qu'il croisait. Il parlait à tous avec sincérité et authenticité, ne cachant rien de ses propres échecs et de ses expériences. Il avait l'habitude de dire « entreprendre, c'est grandir de ses réussites et de ses échecs ». Aujourd'hui, les entrepreneurs accompagnés, ceux qui ont rebondi, les bénévoles et les salariés de 60 000 rebonds, sont sous le choc de la disparition d'un homme qui a su conduire l'association où elle en est et lui donner un rayonnement sans précédent. Il présente à son épouse Catherine Mullier, à ses enfants Thibaut, Tanguy, Sébastien, Grégoire, à ses petits-enfants et à toute sa famille leurs plus sincères condoléances et se joignent à eux dans leur recueillement. Voilà, et nous avons tenu j'ai tenu à lire communiqué de presse parce que Guillaume Mullier était bien connu chez IDFM puisque nous faisons régulièrement des émissions pour 60 000 rebonds. Et toujours pour lui rendre hommage, mardi prochain, l'économie en direct rediffusera un extrait de son interview lors d'une spéciale 60 000 rebonds. Christophe.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Et tout de suite, retrouvons via le téléphone notre chronique bimensuelle Décryptons le monde et son auteur Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique, pour faire avec lui un tour des actualités internationales. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, bonjour aux invités.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors pour débuter cette chronique, Gérard, aujourd'hui vous avez souhaité que nous regardions la situation à venir en Turquie. Il ne s'agit évidemment pas d'aborder les conséquences terribles du récent effroyable tremblement de terre, mais d'évoquer la situation politique et géopolitique sur laquelle les citoyens turcs vont devoir se pencher lors des élections présidentielles du 14 mai. Pourquoi, Gérard, avoir souhaité nous faire réfléchir sur ce sujet ?
Fondamentalement, Jacqueline, pour trois raisons. Ce que j'appellerais premièrement le facteur turc, deuxièmement les implications d'Erdogan dans les affaires internationales et troisièmement les difficultés à venir pour ce scrutin. Donc le facteur turc, c'est effectivement un pays de 85 millions d'habitants qui est à la frontière de l'Europe, qui est une plaque tournante vers le Moyen-Orient, qui est un voisin méditerranéen, qui est membre de l'OTAN depuis 1952, donc voilà, c'est un pays qui est complètement dans la sphère européenne. Deuxièmement, donc les implications d'Erdogan, elles sont nombreuses dans la vie internationale. J'évoquais l'OTAN, donc il a effectivement fait un pas de côté en achetant du matériel de défense antiaérienne russe, les fameux S-400. Il est intervenu indirectement en Arménie, il intervient en Syrie, les tensions avec la Grèce, le gaz en Méditerranée, donc les tensions et l'intervention en Libye. Donc il y a là un activisme politique international. Et troisièmement, eh bien, la situation turque intérieure est très complexe et difficile pour lui. Donc nous sommes devant un résultat très incertain, pas forcément favorable, et le maintien ou pas d'Erdogan au pouvoir aura donc de substantielles répercussions sur le pays et dans les dossiers internationaux où la Turquie est impliquée.
Oui, et alors quelles sont les difficultés multiples auxquelles le président Erdogan est confronté alors qu'il nous semble plutôt aguerri par toutes ces années au pouvoir ?
Eh bien, c'est justement les années au pouvoir, n'est-ce pas ? C'est le temps et l'usure du temps politique. Erdogan, Tayyip Recep Erdogan, est devenu Premier ministre en 2003, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça fait 20 ans de pouvoir et il y a trois choses importantes et difficiles à faire dans le domaine du pouvoir. Premièrement, c'est le conquérir. Deuxièmement, c'est l'exercer. Et troisièmement, c'est durer au pouvoir. Et là, c'est cette troisième difficulté à laquelle Erdogan est confronté. Après 15 années d'économie que je pourrait qualifier de glorieuse, n'est-ce pas ? Il y a eu un environnement international très favorable. L'Europe, les États-Unis ont massivement investi en Turquie, plus de 140 milliards de dollars justement dans la dizaine d'années, les premières années d'Erdogan au pouvoir. Et il y a eu donc un retournement de la situation parce que l'économie internationale s'est aussi ralentie, parce que les choix d'Erdogan Ukraine ont créé des craintes, donc beaucoup moins d'investissements. L'inflation a commencé à poindre, et avec le glissement de la livre turque sur les marchés, la crise du Covid, l'impact du tourisme, donc un retournement économique, une répression sociale aussi, autre thème très important, sociétal plus exactement, depuis 2016, et la répression contre le coup d'État qui a été fomenté contre lui, oui, donc oui. Action contre la justice, contre le pouvoir policier, contre l'université aussi, et puis donc une répression contre les opposants politiques. Donc tous ces éléments constituent un champ de bataille politique à très haut risque.
Est-ce que donc vous parlez de champ de bataille politique, comment ce scrutin se présente-t-il et quel est son rival ?
Donc il est difficile sur le plan économique, et quand une situation économique est difficile, eh bien effectivement la reconduction des dirigeants au pouvoir pose question. Difficile sur le plan électoral, parce que les dernières grandes élections municipales, eh bien le parti l'AKP de Tayyip Recep Erdogan a perdu la capitale administrative, Ankara a perdu la capitale économique, Istanbul. Donc le dernier grand scrutin a été défavorable et il a donc fait condamner habilement, et voilà, c'est là où on voit les difficultés. Son principal rival, maire d'Istanbul, à ne pas être rééligible et se présenter à l'élection présidentielle cette année. Il y a eu donc six grands partis d'opposition qui se sont finalement regroupés autour d'un candidat, donc du parti CHP, le parti créé par Kemal Atatürk, qui est devenu président en 1923, l'homme de la Turquie moderne, voyez-vous, juste un siècle, année pour année après, et c'est Kemal, justement, avec le même prénom, Kılıç Daroğlu, qui a été choisi, c'est un député de 74 ans, et donc qui est présente une image d'apaisement, de réconciliation, et il se pourrait que le parti pro-kurde HDP, sans candidat, apporte ses voix indirectement. Donc il y a une coalition contre Erdogan. Les premiers sondages avant cette nomination de son rival Kemal Kılıçdaroğlu étaient déjà défavorables. 41% simplement de voix pour lui, pour Erdogan. Maintenant, après la nomination, il n'est qu'à 45%, donc 55% pour son rival. Nous n'avons plus à attendre que 60 jours. Le dépouillement risque de prendre un peu de temps.
Oui, et peut-être aussi une dernière question concernant ces élections. Les conséquences du tremblement de terre pourraient-elles aussi avoir une quelconque répercussion sur le scrutin ?
Écoutez, effectivement, c'est une plaie ouverte sur la Turquie, et beaucoup de commentaires ont été faits sur le manque de respect des constructions, des règlements administratifs, donc la corruption et tout ce qui s'ensuit. Donc cela crée un climat de tension interne important en Turquie, et malgré l'aura de ce président, son savoir-faire politique, cet obstacle-là intérieur et douloureux, près de 50 000 morts, est une difficulté supplémentaire.
Voilà, donc on attend, un suspense. Deuxième sujet, Gérard Vespierre, la Russie vient d'abattre un drone militaire américain. Vous vouliez commenter cet événement ?
Écoutez, oui, il y a cet événement quand même assez important et grave, donc qui survient un peu plus d'un mois après la destruction d'un ballon atmosphérique chinois qui était au-dessus.
Oui, dont nous avons parlé d'ailleurs.
Voilà, donc il y a cette situation qui n'est pas tout à fait comparable, parce que le ballon chinois était très haute altitude, était officiellement civil, donc faisait partie d'un programme de recherche difficilement détectable, alors que le drone américain, donc que les Russes ont abattu, bon, c'est un appareil militaire qui navigue à quelques kilomètres d'altitude seulement, alors que le ballon chinois est à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Voilà, on est dans des situations très très différentes, mais nous sommes dans une difficulté réelle.
Oui, et qu'est-ce qui a pu motiver donc l'armée russe à détruire cet engin, certes militaire?
Bien écoutez, il y a plusieurs motivations, et au moins au nombre de trois. Premièrement, une zone de proximité de la Russie, la mer Noire. Bon, sans être une mer russe, c'est quand même un élément de géographique tout à fait proche de la Russie. Deuxièmement, donc une volonté d'exprimer le contrôle de toute opération militaire sur cette zone d'influence géographique. Et troisièmement, je dirais l'appétit de pouvoir détruire officiellement un matériel américain après que les matériels américains livrés en grand nombre à l'Ukraine, n'est-ce pas, aient détruit énormément de matériel russe. Donc il y a d'une certaine façon un coup de pied de l'âne, si vous me pardonnez l'expression, mais elle traduit assez bien, à mon avis, l'état d'esprit russe.
Alors donc, si vous, comme vous le dites, cette destruction est pleinement assumée, doit-on s'attendre malgré tout à une rétorsion de la part des forces armées américaines et donc à une escalade russo-américaine en limite de la zone de guerre en Ukraine ?
Écoutez, j'en ferai une réponse normande inversée. Non. Et oui, parce que non, il y a une volonté de désescalade des deux côtés, aussi bien russes, américains ont dit chacun de leur côté qu'ils ne souhaitaient pas effectivement mener des opérations militaires l'un vis-à-vis contre l'autre. Donc il y a une envie et une vision et une volonté de désescalade. Il y a eu antérieurement, il y a quelques années, en 2019, un drone encore plus important américain abattu par l'Iran, et voyez-vous, il ne s'est rien passé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réponse de la part des États-Unis, une réponse peut-être plus discrète dans un autre domaine, mais le message sera clair, clairement formulé et clairement compris. Mais en tout cas, la grande réponse pourrait être une éventuelle et prochaine et probable nouvelle opération ukrainienne contre les forces russes, une offensive contre les forces russes menée, comme nous le savons, par énormément de matériel occidental et en particulier américain.
Oui, ça pourrait les remotiver encore plus. Merci Gérard pour ce décryptage, une fois encore particulièrement fouillé, qui nous aide à mieux comprendre les enjeux et réalités de cet univers géopolitique. Gérard, avant de nous quitter, je voudrais que vous nous parliez de la sortie en librairie cette semaine du premier livre auquel vous avez contribué. Quelques mots.
Oh, écoutez, je vous remercie infiniment de cette amicale idée. Effectivement, Goodbye Poutine, sous la direction de notre ami Hélène Blanc, qui a réuni plusieurs contributeurs pour rédiger cet ouvrage. Et donc là, il y a un point sur la situation historique entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident. Deuxièmement, que l'image et les actions et l'historique de Vladimir Poutine, c'est dans ce chapitre-là que j'interviens. L'Ukraine sera-t-elle l'Afghanistan de Vladimir Poutine? C'est une question que l'on doit se poser. Ginko éditeur, disponible chez Amazon, à la FNAC, et tous les droits de tous les auteurs seront reversés à une association ukrainienne.
Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette précision et puis on souhaite beaucoup de succès à cet ouvrage. Merci Gérard.
Merci beaucoup.
Je voudrais rappeler juste aussi à nos auditrices et auditeurs que tous vos écrits et interventions médias peuvent se retrouver sur votre site internet www.lemondedécrypté. Il suffit juste de s'abonner. Je vous dis à dans 15 jours Gérard pour une prochaine chronique.
Merci beaucoup et excellente matinée à
merci.
Vous tous.
Au revoir Gérard. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, je reçois trois nouvelles entreprises qui ont fait le choix du label Amplitude. Une communauté grandissante est composée aujourd'hui de Driss Bziwat, chef de projet AGFE, acronyme de Association de gestion des fonds européens, qui accompagne ces entreprises labellisées Amplitude. Isabelle Auger, gérante d'une franchise Babichou à Herblay, spécialisée dans la garde d'enfants à domicile, présidente de l'association des commerçants d'Herblay-sur-Seine. Hervé Degnaud, directeur du centre commercial Les Trois Fontaines, membre associé de la CCI 95, du réseau Entreprendre, du réseau Initiative et du conseil de développement économique de la communauté de Cergy-Pontoise. Et Lauriane Bossou, directrice de Assist Famille Formation, présente dans le secteur de la formation au métier de service à la personne, membre du comité d'administration du PLI de Cergy-Pontoise. Driss Bziwat, bien sûr, je m'adresse à vous en priorité. Donc, la semaine dernière, vous nous avez bien expliqué ce qu'est le label Amplitude. Peut-on aujourd'hui peut-être revenir sur les deux actes fondateurs sur lesquels repose ce label et les trois axes autour duquel ce référentiel est articulé?
D'abord, je voudrais commencer par te remercier, Jacqueline, pour nous donner encore une deuxième fois la possibilité de mettre en exergue et en lumière les entreprises qui s'engagent sur le Val d'Oise et ils s'engagent aussi localement. Donc, je remercie Isabelle Augier, Lauriane Boussou et Hervé Degnaud d'avoir accepté notre invitation, cet engagement. On est à ce jour à presque une dizaine d'entreprises qui ont accepté de venir témoigner, expliquer d'abord leur engagement et témoigner de l'apport et de la plus-value du label Amplitude dans leur action et dans leurs engagements dans la dimension responsabilité sociale ou territoriale des entreprises. Donc le label Amplitude, effectivement, nous avons eu l'occasion d'expliquer plus en détail le cadre général et puis le process. J'invite les auditeurs à aller sur effectivement internet
découvrir
et faire de la recherche sur le label Amplitude, mais en gros c'est un label bien évidemment d'engagement qui vient effectivement valoriser les bonnes pratiques des entreprises en termes de la responsabilité sociétale des entreprises. On l'a dit, c'est un label qui est certifié AFNOR, donc il est basé sur trois engagements socles, à savoir le premier axe, c'est favoriser l'accès à l'emploi. Donc, quelles sont les actions que l'entreprise met à disposition, met en place pour informer sur les secteurs, sur les métiers et sur les organisations? Comment l'entreprise met en place les modalités de recrutement, comment elle accueille, comment elle favorise l'évolution des collaborateurs. C'est un axe RH très important. Et puis le troisième axe, c'est comment elle assure la pérennité de la démarche, comment elle poursuit aussi son rôle de communication sur l'enjeu de la responsabilité sociétale des entreprises pour effectivement être... au-delà de la dimension économique d'une entreprise, c'est aussi la dimension sociale et la dimension inclusive. L'entreprise joue le rôle d'un agent de développement comme l'ensemble des parties prenantes au niveau local.
Oui, et l'intérêt de faire ces émissions avec vous, hein, Driss, c'est de prouver que ce label Amplitude s'adresse à tout type d'organisation, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité.
Exactement. À ce jour, on est à Le 6 avril, nous avons un comité de labellisation. On va être à 17 entreprises labellisées. Donc, on est vraiment très, très content de l'engagement des entreprises. On table d'ici la fin de l'année sur entre 20 et 24 entreprises engagées. Et donc, voilà, je lance un appel l'ensemble des entreprises à partir d'un moment. Alors, les critères d'éligibilité, j'en reviens dessus, Jacqueline, c'est vraiment... L'amplitude s'adresse à tout type d'organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, à partir du moment où il comporte un salarié au minimum. D'accord. Avoir un nom d'existence,
c'est important de le
dire. Avoir un nom d'existence minimum et être à jour de ses obligations légales. Ça, c'est vraiment la dimension critère d'éligibilité. Et puis, il y a une dimension critère de labellisation. C'est il faut que l'entreprise justifie au minimum d'une action par engagement et apporte les éléments de preuve correspondants, parce qu'en fait,
bien sûr,
les collègues vont revenir dessus. Il s'agit d'un cahier des charges, parce qu'on a parlé d'un label certifié AFNOR. C'est un cahier des charges qui contraint l'entreprise effectivement à remplir un certain nombre de d'obligations. Et donc on va demander tout engagement, toute action réalisée, on va demander un certain nombre de justificatifs, soit des documents, soit des photos, soit un certain nombre de justificatifs qui démontrent que l'entreprise a réellement engagé ses actions sur le territoire ou avec effectivement ses collaborateurs, parce que il n'y a pas que la dimension inclusion dans l'environnement, mais il y a aussi ce que l'entreprise fait avec ses collaborateurs au sein, de façon endogène, au sein de la structure.
Oui, c'est là où vous nous parliez des actes fondateurs, où il y a un protocole d'engagement qui est propre à chaque territoire et qui est signé par les principaux acteurs institutionnels et économiques sociaux.
Exactement. Donc, le label Amplitude sur le Val d'Oise a démarré en 2019, rapidement, Jacqueline. Ce label, d'abord, c'est l'acte fondateur du label, c'est un protocole d'engagement signé par les acteurs institutionnels et les acteurs économiques de territoire. Je cite la Chambre de commerce, la CPME, le MEVO, le département du Val-d'Oise, l'État bien évidemment, et l'ensemble des acteurs économiques institutionnels dans le territoire. Donc il y a d'abord un contrat d'engagement qui fait que aussi ces partenaires s'engagent à communiquer au-delà de la responsabilité sociétale des entreprises, à communiquer sur ce que le label apporte aux entreprises. À partir du moment où ce protocole est signé, nous avons toute une organisation opérationnelle. Donc, nous avons trois plis qui sont partie prenante de l'association de gestion des fonds européens, qui, dans leur travail, travaillent déjà avec les entreprises et ils vont faire tout un travail de prospection, d'animation, de communication sur le label. À partir du moment où l'entreprise s'engage, accepte effectivement d'en s'engager sur ce process, commence dans ce cas tout un travail de formalisation d'un dossier, commence aussi tout un travail de communication en interne avec les collaborateurs, avec l'enjeu de la RSE pour, comme vous le savez, depuis 2018 avec la loi PACTE, les entreprises doivent également...
Une obligation.
Il y a une obligation de faire un reporting sur l'ensemble des actions que l'entreprise met en place, effectivement, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on a des comités de labellisation qu'on organise. Donc, l'entreprise, à partir du moment où le dossier est finalisé, il vient présenter devant un jury à la fois les actions réalisées, mais aussi il y a un plan d'amélioration. C'est un label d'engagement.
C'est ça, dans le but d'améliorer sa pratique.
Voilà. Et donc il y a tout un accompagnement pendant 3 ans pour accompagner l'entreprise à renforcer sa responsabilité sociétale des entreprises.
Driss Bziouat, nous en avons parlé la dernière fois, mais je voudrais y revenir puisqu'il y a une participation financière pour accéder à ce label Amplitude. Mais je tiens à y revenir parce que il me semble qu'elle est très abordable. Donc, quelques chiffres, Driss.
Alors, ce label entraîne une participation de la part de l'entreprise. Donc, de 1 ETP à 25 ETP, il y a 500 euros.
Oui.
De 26 ETP à 50 ETP, 750 euros. Et 51 à 100 ETP, 1000 euros. Et de 101 à 250 ETP, 1500. Et plus de 250 ETP, 3000 euros.
C'est ça.
C'est une contribution, juste pour rappeler, cette contribution nous aide, nous, dans le cadre de la gestion, dans le cadre de la coordination, dans le cadre de l'ingénierie, la communication, à financer tous les événements qu'on organise. On organise chaque année une cérémonie de remise de trophées, et c'est avec ces contributions on finance un petit peu tous la logistique, l'organisation liée à ces événements là.
Oui, je vais même préciser, donc ce coût permet d'intégrer la communauté, hein, Amplitude, puisque c'est le cas, et il regroupe l'accompagnement à la labellisation, bien sûr, la mise à disposition d'outils de communication, des affiches, des logos, site internet, la participation au club Amplitude organisé sur le territoire et l'accès à la base de données nationale des bonnes pratiques Amplitude et à l'annuaire des entreprises labellisées.
Exactement,
puisque
Jacqueline,
c'est une vraie communauté qui va interagir, j'imagine.
Exactement, Jacqueline, tu es devenue experte.
Voilà, je vais devenir.
Mais en tout cas, c'est bien ça. Effectivement, l'enjeu de la labellisation, c'est aussi permettre à l'entreprise d'intégrer effectivement une communauté d'échanges, de pratiques, mais pas qu'au niveau local, c'est aussi au niveau national. Et ça, ce travail, nous avons commencé déjà à le faire, à faire rencontrer les entreprises entre elles d'abord. Vous le savez, on peut pas travailler chacun de son côté, et le label sert aussi à favoriser et renforcer les liens entre les entreprises, mais pas que entre les entreprises labellisées, mais aussi avec les institutionnels, avec tous les écosystème de l'entrepreneuriat et de l'emploi de façon plus générale.
Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à.
À toutes les entreprises qui nous écoutent.
Exactement.
Et si vous ne l'avez pas encore fait, il faut rejoindre ce label.
Exactement.
Merci Driss pour
cette
présentation et puis ce supplément d'informations. Alors, si des auditrices ou auditeurs veulent rejoindre la communauté Amplitude, que faut-il faire?
Alors, il y a trois canaux de communication. Bon, d'abord, il y a un site internet, l'association de gestion des fonds européens. Il y a aussi les trois plis, le plan local d'insertion et de l'emploi de Cergy-Pontoise, d'Argenteuil-Bezan et de la communauté de Roissy, Pays de France. Et puis, Jacqueline, je l'ai dit la dernière fois, cette année, on a contracté un partenariat stratégique avec la Chambre de commerce, donc dont je remercie le président, M. Kuchli, son DG, Bernard Cayol, et puis le chef de projet qui travaille avec nous, qui est Stéphanie Gadvin. Et donc, la Chambre de commerce va s'occuper de toute la démarche de labellisation des entreprises. Et la GFE et les plis s'occupent de toute la dimension ingénierie, coordination, organisation, mise en relation des partenariats.
Oui, c'est sûr que ça va être un bon coup de pouce, cette association avec la Chambre de commerce.
Exactement, c'est vraiment un changement d'échelle, en tout cas pour nous, et c'est ce qu'on souhaite vraiment atteindre, parce que au-delà de la belle Amplitude, nous on souhaite vraiment créer une plateforme de réseau entre les entreprises, entre les entreprises conventionnelles, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les institutionnelles, et pour créer de la valeur économique, la valeur sociale, et puis aussi pour développer le territoire.
Bien sûr. Merci Driss, merci encore.
Merci.
Un peu de musique avant de continuer avec des cas concrets d'entreprises labellisées. À tout de suite.
Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. Le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi.
Midi sur novembre. Merci d'être resté avec nous sur EDFM Radio. C'est l'économie en direct, consacrée ce matin au label Amplitude, pour entre autres renforcer sa marque employeur, avec à mes côtés Driss Bziwat, chef de projet AGFE, Isabelle Auger, gérante d'une franchise Babichou et Herblay, Hervé Degnaud, directeur du centre commercial Les Trois Fontaines, et Laurienne Bossou, directrice de Assist Famille Formation. À présent, focus sur vous, Isabelle Auger. Alors, je vois que vous êtes gérante de cette franchise depuis avril 2013. Comment devient-on dirigeante d'une agence de garde d'enfants ?
Parce qu'on fait une reconversion.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Parce qu'avant, je travaillais en tant que secrétaire générale dans un cabinet conseil qui a fermé en 2010.
Oui.
J'avais deux enfants en bas âge. Et j'avais le choix de retourner travailler à la Défense en partant à 7h30 le matin et en rentrant à 20h.
Oui, alors que vous habitez dans Val d'Oise.
Voilà. Et du coup, problématique de garde d'enfants. Et je me suis dit, mais comment font les mamans quand elles ont un poste avec un peu de responsabilité pour gérer la garde d'enfants? Je me dis, il y a une vraie problématique, donc je vais faire quelque chose pour compléter le mode de garde existant classique. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée.
Et ça vous a plu tout de suite?
Et ça m'a plu tout de suite.
Oui, c'est ça. Voilà. Parce que c'est encore il y a le choix, mais après, il faut aimer ce qu'on fait.
Voilà. Donc, j'ai rencontré la fondatrice de Babichou Service. Et du coup, voilà, les valeurs, la façon de travailler, tout ça convenait très bien. Et ça, surtout, ça pouvait se faire aussi rapidement. Parce que je ne voulais pas rester des mois sans rien faire. Et voilà. Et donc, c'est parti comme ça, depuis 10 ans.
Alors Babichou, c'est une franchise, hein.
Oui.
Il a fallu que vous financiez, comment avez-vous fait ?
Crédit bancaire.
D'accord.
Crédit bancaire.
C'était accessible.
C'était accessible il y a 10 ans, oui, et puis c'était pas un gros budget. Donc,
Et donc aujourd'hui, vous êtes très épanouie dans cette activité.
C'est ça.
Ça vous plaît ?
Ça me plaît.
Donc alors Babichou, c'est de la garde d'enfants à domicile, un mode de garde bien connu des parents qui ont des jeunes enfants et qui peuvent bénéficier d'aide, hein, je crois, les parents.
C'est
pour,
ça. Donc c'est destiné aux parents de, d'enfants de 0 à 12 ans. La plus grosse partie de notre travail, c'est ce qu'on appelle la garde régulière périscolaire. Donc
oui.
Ça peut être la sortie d'école, ça peut être le matin. J'ai des mamans qui partent très tôt le matin et du coup, les garderies ne sont pas encore ouvertes.
Oui, c'est ça, c'est la prise en charge de l'enfant.
C'est la prise en charge de l'enfant.
À des moments un peu cruciaux.
Où il n'y a pas d'autres modes de garde. Mmh. On fait également le temps plein pour les familles qui n'ont pas de place en crèche, ou qui n'ont pas d'assistante maternelle, ou c'est leur choix personnel de faire garder les enfants à la maison. Et on fait également tout ce qui est babysitting, qui peut être, alors pour tout besoin, ça peut être la sortie du samedi soir pour se faire un resto ciné, comme un enfant malade qui peut pas aller en cours, comme remplacer mamie qui est partie faire une thalasso, enfin voilà, ou pour un rendez-vous chez le notaire, enfin voilà, tout besoin ponctuel. Et on gère même les cas d'urgence où on est capable de répondre en 3 heures.
C'est ce que j'allais vous dire parce que la mamie qui tombe malade, c'est pas forcément.
Ou l'enfant malade le matin, on a un appel à 8h30 et puis en fin de matinée, la famille a quelqu'un. Voilà. Et donc effectivement, il y a des aides. Il y a des aides de la CAF pour tous les enfants de moins de 6 ans, bon, évidemment soumis à condition, et il y a des crédits d'impôt aussi, 50% pour les enfants, pour la garde d'enfants.
Donc ça veut dire que vous avez besoin de recruter du personnel, des babysitters notamment. Et aujourd'hui, vous avez fait le choix d'être labellisé Amplitude. Donc en quoi ce label vient
Eh bien en fait,
renforcer votre activité.
Voilà, j'ai une copine qui travaillait au pli.
Oui.
Et qui donc connaissait mon activité, savait comment je fonctionnais, et elle me dit, mais franchement, toutes les actions que tu mets en place par rapport à tout ce qui est RH, c'est impressionnant, il y a toutes les conditions pour que tu sois labellisé. Bon, oui, ok, pourquoi pas, voilà, enfin, ça va faire du boulot en plus, etc., etc. Du coup, j'ai été approchée par le pli, effectivement, Faïma du pli est venue, il y a eu un gros, gros dossier quand même à préparer.
Oui.
Elles sont top, enfin voilà.
C'est ça, vous êtes très accompagnée.
Très très accompagnée, j'ai pas fait grand chose à part citer toutes mes actions et effectivement on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses mises en place, donc ça valait le coup de faire labelliser. Parce que effectivement, c'est
au fond vous faisiez du label Amplitude sans le savoir.
Sans le savoir, voilà.
Quelque part.
Parce que effectivement, c'est que du temps partiel. Alors, c'est temps partiel choisi et pas subi, puisque si on est sur une sortie d'école, on a des contrats moyens de 6-7 heures par semaine.
Bien sûr.
Donc, nos profils, c'est 50% les étudiants, puisque ça fait le petit job étudiant. Après, on a 20% de personnes qui travaillent à temps partiel et du coup qui viennent compléter. Et on a de plus en plus les jeunes retraités aussi qui viennent compléter leur retraite et qui veulent pas rester rien faire. Donc c'est que du travail, que de l'emploi de proximité. Mmh. On est un acteur important sur le Val d'Oise, puisque j'ai 2 agences, une à Pontoise, une à Herblay. Voilà, et donc il y a matière à proposer de l'emploi sur notre territoire.
Oui, je comprends. Et alors, est-ce que les autres franchises Baby Shoes sont au courant de votre labellisation ?
Oui, ils sont au courant parce qu'on communique régulièrement entre nous. Et il y a une autre agence, mais alors je ne sais plus laquelle c'est honte à moi, en province, qui s'est fait aussi labelliser. Peut-être que Driss sait dans quel autre département il a été mis en place.
C'est peut-être le Creusot-Monceau, je pense. Ou, en tout cas, il y a des départements comme...
Voilà, donc il y a un autre département qui, une autre agence a été labellisée aussi. Amplitude.
Et le pôle qui gère toutes les franchises de Baby Shoes, parce que
la tête de réseau.
Oui, la tête de réseau. Ils sont au courant que vous avez fait cette démarche.
Ils sont au courant aussi.
Donc ils pourraient aussi.
Ils pourraient peut-être inciter les autres agences à le faire si c'est mis en place sur leur territoire.
Parce qu'aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous pouvez en retirer de ce label Amplitude ?
Alors, ben déjà, ça valorise tout ce que je fais, je trouve, et c'est pas négligeable, parce qu'on est toujours en train de s'auto-flageller, et puis là, je me dis quand même...
c'est une vraie reconnaissance.
Voilà, il y a des choses qui sont bien. Et puis, c'est surtout qu'on a travaillé sur des axes d'amélioration, donc on s'aperçoit qu'on peut encore faire mieux, on peut encore faire plus, voilà.
Malgré le fait que vous avez quand même sans doute un grand flux de personnes qui vont et viennent dans la franchise,
oui.
Puisque le temps moyen d'un employé, c'est combien dans votre franchise ?
C'est 1 an et 3 mois.
C'est ça. C'est ça.
Voilà, donc, c'est un an et trois mois. Certains sont là depuis très longtemps.
Oui.
D'autres restent beaucoup moins parce que ils font le début de l'année scolaire des étudiants, puis arrivent en janvier, il y a modification des plannings, nouveau semestre, et puis ça colle plus. Ils repartent et puis ils reviennent plus tard ou c'est fini. Voilà. Donc. Ouais. Mais c'est le travail qui veut ça.
Donc
on sait que c'est pas un poste à vie.
C'est ça. Ça veut dire aussi que vous êtes constamment en train de recruter.
On recrute toutes les semaines, ouais. On a des sessions de recrutement.
C'est ça.
Et l'idée justement, c'est que les gens qui travaillent chez nous, c'est une étape. Ils ne viennent pas pour travailler à vie, mais on va les accompagner aussi sur leur projet à eux perso. Si un étudiant, voilà, on peut avoir aussi dans nos réseaux des contacts pour des stages, pour des emplois. Voilà. Donc tout ça, c'est on accompagne.
Oui, et puis c'est même peut-être pour les étudiants notamment une belle opportunité de trouver un job qui les rémunère correctement.
Légalement et correctement.
C'est ça. Donc est-ce que vous avez des offres d'emploi à proposer là, si vous voulez on les passe à l'antenne.
Toutes les semaines. Alors je les ai pas en tête parce que je ne gère plus la partie opérationnelle, mais toutes les semaines on a des offres.
Ça devient multinationale.
En tout cas, je sais que ce qu'on a besoin comme profil, c'est des personnes véhiculées. C'est ça le souci en ce moment,
parce que les
parents ont besoin que les enfants soient véhiculés pour aller aux activités périscolaires ou parce que l'école est trop loin du domicile.
Et donc, si des auditeurs, auditrices veulent vous contacter, Isabelle Auger, que faut-il faire?
Ils peuvent s'inscrire directement sur www.babichou.com, soit dans la partie parents pour retrouver la babysitter de leur rêve, soit dans la partie intervenant pour trouver le job de leur rêve.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Isabelle Auger, de nous avoir fait partager votre activité. Driss, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose au témoignage d'Isabelle?
Non, je souhaite remercier les animateurs qui ont accompagné les entreprises et en l'occurrence pour Isabelle, c'est Faïma. Donc je remercie Faïma pour son travail d'appui technique, de formalisation de ce document-là.
De patience.
De patience, bien évidemment. Le pli d'Argenteuil-Besan, Karine Fougeret qui est la directrice. Donc voilà, c'est eux qui sont vraiment au plus près du terrain, des entreprises, donc un gros travail vraiment réalisé par eux. Voilà.
Oui, et puis je trouve que l'exemple d'Isabelle montre bien la taille de l'entreprise, puisque c'est ce que nous disions, hein, que n'importe quelle entreprise peut avoir accès à ce label Amplitude, donc c'est vraiment un bon exemple.
Parce que normalement, des fois, les chefs d'entreprise n'ont pas non plus le temps vraiment de formaliser, de faire tout ce travail de formalisation. Alors, il faut savoir que dans un futur proche, toutes les entreprises doivent absolument formaliser une stratégie RSE. Et donc, on est en train d'initier quelque chose. Et donc, on est obligé aussi, de la part de la GFE, des PLI, d'engager des moyens pour aider aussi les chefs d'entreprise à engager ce travail de formalisation, d'écriture, parce que c'est bien de formaliser, ça veut dire voilà ce que je fais, voilà ce que je m'engage à faire dans l'avenir pour effectivement être responsable, solidaire, avec mon environnement plus proche. Et ça, cette prise de conscience, franchement, quand on voit ce que les entreprises apportent et font au niveau local,
on
est vraiment agréablement surpris de ce travail-là. Mais voilà, les entreprises, c'est pas juste la dimension économique, c'est aussi la dimension sociale.
Merci Driss, merci Isabelle Auger pour votre témoignage. On fait une très courte pause et je donne la parole à Hervé Deniaux.
Anonyme. If we could live in a dream.
IDFM Radio. Vous nous rejoignez peut-être et ce matin dans l'économie en direct sur IDFM Radio, mise en lumière du label Amplitude, une vraie reconnaissance pour ces entreprises qui fédèrent leurs collaborateurs autour de valeurs communes. Et donc à mes côtés, Driss Bziwat, Isabelle Auger, Hervé Degnaud et Lauriane Bossou. Hervé Degnaud, merci d'avoir patienté.
Je vous en prie.
Donc, le centre commercial des Trois Fontaines existe, vous m'avez dit 95 avant l'émission, mais c'est 72?
Non, moi, j'ai noté. Il a été construit en 1972 et Emerson a acheté en 1995.
Voilà, très bien. Donc, un espace commercial, c'est un espace où tout recommence chaque matin.
Exactement, oui. On accueille à peu près entre 30 et 50 000 personnes par jour. Donc, il faut les accueillir dans de bonnes conditions, que ça soit propre, sécurisé et puis aussi attractif, avec des commerçants qui ont le sourire et... souvent, les commerçants, ils ont des problématiques d'emploi.
Oui, bien sûr. Donc, vous-même, votre rôle au cœur de ce centre commercial, quel est-il ?
Je caricature en disant qu'on est un peu à la tête d'un ensemble comme ça, comme le maire d'une petite ville. Mmh. Faut que tout fonctionne bien, faut être à l'écoute de, c'est pas ses administrés, c'est locataires commerçants, ses utilisateurs, les clients. En fait, voilà, faut tout gérer, la sécurité, le nettoyage, l'entretien du bâtiment. On a une équipe qui m'est dédiée avec, et puis des prestataires également qui sont là à mes côtés pour faire tourner cette petite épicerie.
Oui, enfin, petite grande épicerie, avec tous les jours des événements probablement assez originaux. Vous nous disiez avant l'émission,
vous
parliez d'hier après
l'actualité de l'intérieur.
49,
exactement,
49,
on vit l'actualité de l'intérieur. On n'est pas qu'un lieu du commerce, on est un lieu de vie. Et donc, on subit, mais on est acteur de l'actualité. Hier, en fait, à l'issue du 49-3, on a eu une petite manifestation à l'intérieur du centre commercial dans le calme le plus total. En fait, des gens sont venus simplement faire un petit sitting et scander leurs revendications. Mais ça s'est passé très calmement, ils sont restés très peu.
Voilà. Oui, ils n'étaient pas trop excités.
Pas du tout. Non. On a eu la semaine passée également un flash mob le jour de le 8 mars pour la journée de la femme. Voilà, c'est tout type d'activités qui se passent aux Trois Fontaines. Voilà, il se passe toujours quelque chose aux Trois Fontaines.
Oui, voilà, une citation bien connue.
Voilà.
Hervé Degnaud, je voudrais qu'on revienne sur la vie des centres commerciaux. Vous avez connu la crise sanitaire et puis il y a cette révolution du digital. Comment les centres commerciaux arrivent-ils à s'adapter, en tout cas le vôtre?
Oui, bien sûr, on a vécu la crise sanitaire a montré qu'en fait on était quand même, nous, un acteur de proximité.
Oui.
Puisqu'en fait on a des pharmacies, on a aussi un hypermarché, et donc on a toujours été ouvert de façon réduite, mais on a toujours proposé en fait aux pire de la crise, en fait, quand même une activité. On pouvait quand même aussi retirer de l'argent, des banques. Donc, on a toujours proposé quelque chose. Et bien évidemment, comme vous le disiez, le commerce physique, il a des difficultés, mais il a encore beaucoup d'atouts, puisqu'en fait, tout se passe pas sur Internet. Le contact humain, la relation humaine, le conseil, l'ambiance, un sourire et un conseil, ça, vous l'avez pas sur Internet.
Ouais.
Mais également aussi, quand vous voulez vous restaurer, manger quelque chose, ça vous le trouvez pas sur le net. Et en fait, nous, on est encore là pour ça. Et on est un acteur économique fort, puisque en fait, le centre commercial des Trois Fontaines, c'est à peu près, avec les emplois indirects, 3000 personnes qui travaillent au quotidien. On est au cœur de Cergy, parce qu'on est à côté de la préfecture, on est né avec la préfecture. Et en fait, les gens nous utilisent pas que comme un centre commercial, mais comme je disais, un lieu de vie, un lieu d'échange,
ouais.
un lieu où on vient passer du temps.
Hein. Voilà. Ouais, absolument. Vous êtes confronté à des vraies réalités. On parle notamment le développement durable, l'éco-citoyenneté.
Bien sûr, c'est au cœur de l'ADN de notre société du groupe Emerson. on a un objectif de, en fait, d'être pratiquement être en bâtiment neutre dans les prochaines années. On a un engagement fort aussi de nos recyclages de déchets. Là, les Trois Fontaines, on est à entre 75 et 80% de nos recyclages de déchets, de valorisation de ces déchets. On réfléchit à d'autres choses aussi, à de la méthanisation, de fabriquer quelque chose, une énergie avec ces déchets, implanter des panneaux photovoltaïques également pour devenir totalement autonome. Et ça, c'est un seul axe de notre on va dire politique RSE, mais l'emploi d'être labellisé était très important également pour nous.
Oui. Alors, comment êtes-vous venu à ce fameux label Amplitude?
Eh ben, en fait,
vous êtes un homme de réseau, on l'a vu. Ça a dû aider.
Oui, alors, au-delà d'être un homme de réseau, je suis très très bien entouré et donc j'ai une équipe formidable qui s'occupe de ces problématiques. Et en fait, quand le centre commercial, il a complètement muté ces dernières années. On a créé un pôle restauration. Et lors de cette création, 3 500 m², plus de 15 restaurants, on s'est retrouvé en fait la problématique de recruter en fait et dans le monde de la restauration, c'est très compliqué.
En ce moment, oui.
Et on a déployé un dispositif qui s'appelait les fontaines de l'emploi, donc un lieu dédié, même à l'extérieur du centre commercial, on avait pris un conteneur en face de la gare où on a mis en application tous les acteurs de l'emploi de Cergy-Pontoise, un lieu aussi d'échange avec les personnes en recherche d'emploi. Vous pouvez faire un CV, consulter une offre d'emploi, voir quel type de dispositif ils avaient besoin. Ça a très très bien fonctionné. Donc on était un relais entre les restaurateurs et puis en fait les futurs employés. Et lors de la deuxième phase d'extension du centre commercial, quand on a créé en mars dernier, pas mars 2022, on va fêter nos un an d'extension. On a recréé 50 boutiques. On a redéployé ces fontaines de l'emploi, mais cette fois-ci à l'intérieur du centre commercial. Et ça permet un échange beaucoup plus facile. En fait, les utilisateurs, les clients pouvaient se dire « Ah, bah voilà, j'ai une offre d'emploi, qu'est-ce qu'on me propose, quelle enseigne ?» Et c'était tout de suite réactif. Et en fait, souvent, on pense que derrière un centre commercial, on n'a que des grosses industries, grosses locomotives. Mmh. Et en fait, non, on a beaucoup de franchisés qui portent des enseignes, même nationales. Et en fait, les franchisés, bah, comme Isabelle le disait, on n'est pas. Enfin, les franchisés, ils ont déjà à lever des fonds, à constituer, à trouver un local. Et donc, en fait, la problématique d'emploi, elle vient tout de suite. Et donc, quand un franchisé type un franchisé Lacoste, un franchisé Levi's, un franchisé Adidas, un franchisé Jeff de Bruges, voilà, j'en ai cité quelques-uns
comme ça, je suis bien. Il n'y a pas de jaloux.
Voilà, il n'y a pas de jaloux. Toutes ces marques nationales qui parlent à tout le monde, et ben elles sont portées par des franchisés. Mmh. Et donc la problématique d'emploi, elle est première pour eux. Oui. Ils n'ont pas le réseau d'une grosse enseigne internationale avec des process. Ils ont besoin de trouver quelqu'un. Et proposer quelque chose local, ben ça répond aussi à l'absentéisme, à du confort aussi, les amplitudes. Ben Isabelle le disait, trouver aussi des gens qui sont à proximité, ça permet aussi de faire des contrats courts ou des contrats en adéquation avec les contraintes familiales.
C'est ça, absolument. Est-ce que vous avez senti que le fait de faire ce label Amplitude a fédéré un petit peu toute la communauté du centre commercial?
Oui, et puis bah, j'en profite surtout pour remercier l'accompagnement du PLI et Arnaud Poirier qui nous a accompagnés d'une façon formidable, et d'ailleurs tous les acteurs de la communauté de Cergy-Pontoise qui s'occupent de l'emploi, qui sont très actifs, très présents, et ça fait du bien. Mm-hmm. Ça fait du bien parce qu'en fait, souvent, ils sont confrontés à des gens qui sont en situation compliquée, hein, qui recherchent un emploi, et ils sont toujours bienveillants et une bonne écoute. Et donc, en fait, ils nous ont aussi beaucoup aidés dans la façon d'organiser et de nous permettre d'être labellisés. Ils nous ont beaucoup accompagnés sur ça et on est très fiers et on leur remercie. Et puis voilà, ça nous va nous permettre aussi d'améliorer nos process. Là en fait, malheureusement, le site Les Fontaines de l'Emploi est en maintenance, mais voilà, c'est un site dédié à l'emploi
qui fonctionne. Moi je voulais vous féliciter par rapport aux boutiques éphémères, parce que je cite très souvent Amélie Commerson, dans la mesure où nous sommes en relation avec la CMA, la CCI, bien sûr. Et je sais que ces boutiques éphémères font beaucoup de bien à beaucoup de monde.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis fils de commerçant, et donc, en fait, fils d'artisan. Et en fait, les artisans, souvent, voilà, ils produisent, et d'avoir, et on le voit encore maintenant, et on revient justement au commerce physique, de voir le produit, d'avoir un commerçant qui vous parle de comment il a fait son produit. Et ben voilà, nous c'est quelque chose sur lequel on est engagé très fortement, de faire ce type de boutique éphémère, et même de plus que ça soit des boutiques éphémères, des boutiques
qui perdurent.
On est toujours confronté aux problématiques économiques, parce qu'il faut toujours trouver un modèle, mais on essaie d'être agile, souple, pour que en fait ces artisans puissent aussi gagner leur vie, voilà, et que ça soit pas forcément qu'une vitrine, et qu'au final ça soit rentable pour eux. Et on le fait aussi au groupe Amerson, sur l'ensemble du territoire, comme à Marseille par exemple, on a des boutiques éphémères, et Marseille est aussi labellisé l'Amplitude.
Oui, je crois d'ailleurs que c'est à Marseille que le label a démarré. J'avais compris la semaine dernière.
Exactement, le label Amplitude a
vu le jour là-bas à Marseille.
En 2007, avec l'association Émergence, qui porte effectivement le pli de Marseille.
Très bien.
Et petit à petit, ça s'est disséminé sur une dizaine de territoires.
Merci Hervé Degnaud de toute cette démonstration. Alors, je sais que vous avez une actualité à nous annoncer avec une ouverture prochaine.
Eh ben oui, là un grand magasin suédois avec deux lettres, un H et finissant par M, va ouvrir la semaine prochaine. Voilà, c'est une refonte totale, et en fait il y a 35 emplois qui vont être occuper cet espace, et on va avoir encore d'ici la fin de l'année entre 15 et une petite quinzaine d'ouvertures de boutiques au sein du centre commercial. Donc autant d'emplois créés, on est très content de ça.
Oui, on comprend que vous avez à cœur de faire savoir que chez vous, on peut exercer son travail dans des conditions agréables.
Ben oui, bien sûr, absolument. Si on n'est pas content de venir au travail, et si on n'est pas bien dans son travail...
Ça le fait pas.
Non, absolument.
Merci beaucoup Hervé Degnaud pour votre analyse et puis votre dynamique pour maintenir le flux des Trois Fontaines. Merci.
Comptez sur moi.
Voilà, on va faire une courte pause pour pouvoir donner enfin la parole à Lauriane Boussou. Donc, à tout de suite.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Ceux qui ont
IDFM Radio,
oui,
voilà, mes invités sont très dissipés. Voilà. Lauriane Boussou, donc je vous donne la parole. Lauriane, parlez-nous un petit peu de vous, présentez-vous à nos auditeurs.
Donc je suis Lauriane Boussou, responsable d'Assise Famille Formation, qui est un centre spécialisé dans la formation au métier de l'aide à la personne. Comment je suis arrivée à la création d'Assise Famille Formation? Je peux dire que je viens du monde médical.
Oui.
Puis paramédical en France, et après je me suis spécialisée en santé publique après des études à l'université, bien sûr. Donc j'ai eu la chance de rentrer dans le monde de la formation, où je préparais au concours des soignants, tout ce qui est paramédical.
D'accord.
Donc après la naissance de mon dernier, je travaillais à Stein dans les 93, je mettais pratiquement 2 heures pour y aller.
Oui.
Maintenant avec un bébé, c'est difficile.
Oui, la même problématique que Isabelle.
Donc, j'ai cherché du travail dans le 95. Et malheureusement, je ne trouvais pas. Mais je ne trouvais plus en dehors du 95. Mais impossible d'y aller. Et puis, un jour, je me suis levée et je dis, bon, je vais aller au Pôle emploi et demander à ce qu'on me trouve quelque chose à faire.
N'importe quoi.
N'importe quoi. Je ne veux pas rester à la maison. Donc, j'ai rencontré une belle dame à l'accueil qui me dit, on n'a pas... dans votre domaine, mais ce que je peux vous proposer, c'est une formation pour créer une entreprise. Je n'avais pas du tout l'idée, je dis, mais pourquoi pas? Moi, je veux juste sortir de la maison, on y va.
Donc,
j'ai été dans cette formation qui a duré 4 mois. Et après, déjà dans le 93, je remarquais qu'il y a des gens qui venaient du 95 pour se former dans le 93, mais ils n'étaient pas prioritaires. Parce que dans une formation professionnelle, la présence... Et on ne payait pas l'heure de présence des personnes. Donc, si la personne a des problématiques de déplacement, le centre est pénalisé et la personne
bien
est
sûr.
Pénalisée. Donc,
bien
je dis, bon, c'est une belle occasion aussi de créer dans le 95.
Oui, voilà, une opportunité
une belle
que vous avez su saisir. Bravo, bravo.
Merci. Donc, c'est comme ça que Assise Famille Créée Formation est née à Cergy.
Et donc, ça, c'était en 2010, c'est
en
ça
2010,
en 2010.
Oui.
Et depuis, c'est une structure qui marche bien.
Qui marche très bien et cela grâce quand même à nos partenaires hein, qui nous ont donné la main dès la première année. Le pli 95.
C'est ça, le pli 95 qui lui-même, 95. On a compris, c'est un petit peu l'interface, hein, si je me trompe pas, Driss, c'est l'interface entre les entreprises et puis le label Amplitude.
Exactement, il y a trois structures pli sur le 95. Donc c'est des structures qui sont portées par des collectivités territoriales. C'est soit des associations, soit c'est des services intégrés au sein de la collectivité. L'exemple de Roissy Pays de France qui porte ce service. Et c'est des structures qui sont financées par les fonds européens à travers l'association de gestion des fonds européens. Et leur mission, c'est accompagner les demandeurs d'emploi en très grande difficulté à accéder à une formation et à un emploi, mais aussi à mettre en place des relations avec les entreprises pour rapprocher les profils qu'on accompagne avec les opportunités d'emploi au sein des entreprises.
Très bien, merci Driss pour cette précision. Lauriane Boussou, donc vous, votre activité, vous êtes dans le domaine donc sanitaire et social. Quels sont les services que vous proposez précisément?
Le premier objectif, c'est de répondre aux besoins des agences d'aide à la personne. Et nos grandes formations, c'est des formations de découverte du domaine des métiers de l'aide à la personne. On prépare au CAP, accompagnant éducatif petite enfance, CAP gardien d'immeuble, et le titre d'assistant de vie aux familles.
Et donc, ça peut être aussi, c'est un accompagnement social, ça peut être des sorties culturelles, des ateliers de valorisation. C'est tout ça?
Le plus d'Assise Famille Formation, qui est un petit centre de formation par rapport au grand du territoire, c'est ce côté humain.
Oui.
C'est la prise en compte de la personne dans sa globalité. La personne ne vient pas que pour la formation, mais on lui donne un cadre où elle essaie de s'épanouir. Parce que c'est par rapport aussi à notre propre histoire.
Bien sûr. Le fait
que j'avais, moi, personnellement, pas eu la chance de donner ce que j'ai sur le territoire, je me suis dit, ceux qui ne m'ont pas embauché ont perdu quelque chose.
Oui, oui,
donc, ceux qui viennent vers nous, on leur donne la chance de se dire, on est important.
On est là.
Et on est là. On veut le prouver. Parfois, on ne sait peut-être pas le démontrer.
Oui, oui, bah écoutez, c'est une belle philosophie. Hein. Alors, vous êtes membre du comité d'administration du PLI de Cergy-Pontoise, donc complètement dans le bain du label Amplitude, si je puis dire. Aujourd'hui, ce label, que vous apporte-t-il?
Je dirais le label déjà vient récompenser des bonnes pratiques du centre de formation. Et surtout, de permettre de rencontrer des personnes qui sont dans la même démarche que nous. Donc, le label, comme l'a dit Driss, a valorisé notre ancrage territorial, de savoir qu'on travaille avec des partenaires qui accompagnent, surtout le PLI et le conseil départemental. Et aussi, la chance qu'on donne, pourquoi? Sur quel point on a été sollicité pour le label ou bien on a été choisi pour faire cet accompagnement? C'est par rapport au mode de recrutement.
Oui. J'ai pu voir aussi en préparant le dossier que donc il pourrait y avoir la fermeture possible au mois de mai de votre antenne d'Argenteuil, faute de candidats et de locaux adaptés. Est-ce que le label Amplitude ne pourrait pas pallier ce manque?
C'est vrai que le label Attitude nous a permis de rencontrer les acteurs du territoire d'Argenteuil-Bezons, mais il n'y avait pas eu l'engouement qu'on avait eu avec le pli de Sergi Pontoise, par exemple. Mmh. On espère, on a jusqu'au mois de mai pour réagir.
Oui. Et c'est en bonne voie ou vous le ressentez comment?
on espère toujours.
Oui, on espère.
On a eu quelques appels cette semaine et puis on garde espoir. Ce serait dommage pour les demandeurs d'emploi du territoire, surtout les bénéficiaires du RSA, parce qu'on a un conventionnement avec le conseil départemental qui fait que tout demandeur d'emploi ou bien tout bénéficiaire du RSA peut venir vers nous et suivre la formation qu'il désire.
Donc si vous aviez des besoins à exprimer, quels seraient-ils aujourd'hui?
Déjà remercier ceux qui nous ont tendu la main et demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait de ne pas hésiter et ils n'auront pas à le regretter.
Votre centre comprend combien de... Vous fonctionnez avec combien de personnes?
Très bien. J'ai au total 6 salariés, dont 2 alternants.
D'accord, très bien. Très bien. Et vous avez probablement des personnes aussi qui sont là pour des emplois... Qui ne sont pas forcément très en CDD, j'imagine, en CDI, je veux dire.
On a une seule qui est en CDI et les contrats d'alternance, c'est 2 ans. Oui. Mais la chance aussi qu'on a à travailler à CIS, c'est que nous, nos recrutements, ce n'est pas forcément par rapport au diplôme, mais par rapport à la motivation de la personne.
Toujours.
On pense qu'aujourd'hui, on a sur le territoire ou bien dans le... Au niveau des dispositifs, on a des dispositifs qui permettent d'essayer quelqu'un sans forcément que la personne remplisse toutes les conditions. Nous, pour venir travailler avec nous, c'est la motivation. Souvent, on a tendance à demander aux demandeurs d'emploi ou bien à ceux qui cherchent un travail, à leur demander qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise. Mais jamais on dit qu'est-ce que l'entreprise peut vous apporter. Donc, nous, on veut apporter autant qu'on nous apporte.
Ah oui.
Donc, c'est dans cette démarche qu'on embauche.
Un contrat gagnant-gagnant.
Ah oui, forcément.
Alors, je voudrais préciser aussi que toutes vos offres de formation sont gratuites pour les bénéficiaires du RSA du 95. C'est important, ça?
Très important. C'est très important.
Donc, si des personnes nous entendent et veulent faire cette formation, que doivent-elles faire?
Elles appellent la CIS Famille Formation.
Très bien. Puis, on retrouvera les coordonnées dans le podcast de l'émission.
Très bien, c'est ça.
Merci, Lauriane Bossou, pour votre partage d'expérience vis-à-vis de ces bonnes pratiques en entreprise, garante du label Amplitude. L'émission va bientôt arriver à sa fin, donc on va faire un petit tour de table avant de se quitter. Isabelle Auger, je reviens vers vous. Si vous avez quelque chose à nous que vous n'avez pas dit tout à l'heure ou que vous voudriez dire.
Je pense qu'au niveau local, voilà, il y a énormément d'entreprises et qu'effectivement, ce genre de réseau, que ce soit les plis, la GFE, la chambre de commerce, etc., permet de nous mettre en relation et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble, voilà, pour nous aider à nous ancrer encore plus dans le territoire et à répondre aux demandes des citoyens.
On n'a pas du tout parlé, c'est pas le sujet, mais on n'a pas du tout parlé de votre rôle de présidente des commerçants d'Herblay. Vous êtes retrouvée comment, présidente de ce...
Parce que j'ai été simple adhérente, après j'ai été secrétaire, et puis après on m'a dit allez, prends la présidence. Par exemple, ce que j'ai fait là avec le prix d'Argenteuil et puis ce label... Transpire aussi au niveau maintenant de l'association.
Parce que
par exemple pour la journée Ouvre-moi ta boîte que je fais chaque année où j'ouvrais mon agence et je faisais découvrir des postes ou comment fonctionnait l'entreprise, on va la dupliquer cette année au niveau de l'association des commerçants. Ça va être l'ensemble des commerçants et ça va être destiné aux jeunes pour qu'ils puissent venir découvrir des métiers. Voilà, c'est un scoop que
très
je
bien.
Vous dis.
Ah bon, bah écoutez,
ça a été décidé en réunion hier. Donc ça va être destiné aux jeunes, lycéens, collégiens de 3e, jeunes qui sont dans les missions locales, où ils vont pouvoir venir découvrir des métiers dans tous les commerces du centre-ville adhérents.
Très bien, ça va se faire sur une journée ou sur plusieurs
On pense qu'on va le faire sur une semaine, oui. Parce que sur une journée, ça va être
trop court.
C'est court.
Une sorte de porte ouverte.
De porte ouverte, voilà.
Très bien.
Voilà, donc voilà, ça se transpire
dans
toute la ville.
Vous êtes sur votre lancée.
C'est ça.
Merci Isabelle Augier, merci. Hervé Degnaud, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Je pense que je vais copier cette belle idée d'Isabelle pour accueillir les jeunes.
Gagnant, alors.
Non, on le fait également. On accueille souvent des jeunes autour de la fête du miel parce que aussi, dans l'aspect environnemental, les Trois Fontaines font leur propre miel, mais qui n'est dédié qu'aux amis, donc aux gens autour de la table, par exemple.
Oui, c'est-à-dire vous avez des ruches sur les toits du centre commercial. Elles sont où exactement?
Oui, elles sont sur les terrasses du centre commercial, ouais. qui sont accessibles au public et qui sont opérées par Sitbiz, en fait, qui est un apiculteur très très engagé, qui se déplace à la force de ses mollets et qui récolte du miel à Paris et qui a été multiple médaillé et qui veut concourir avec le miel des Trois Fontaines au championnat du monde l'année prochaine. Il a déjà fini deuxième et moi j'aimerais bien qu'il finisse premier avec notre miel.
Bah, vous allez nous tenir au courant, hein.
Absolument. Je vous ferai goûter tout
ça. On veut tout savoir. Merci infiniment.
Je vous en prie.
Lauriane Bossou, un mot de conclusion.
Dis merci au comité, hein, à Driss, pour ce bel label et qui permet de rencontrer les acteurs très actifs du territoire. Oui. Et merci à vous de nous avoir invités. Merci à l'équipe d'Assis Famille Formation, à Isabelle Ferron, Dupli, Arnaud et aux autres qui avaient cru en nous.
Très bien, ben merci à vous. Merci d'être venu ce matin. Driss Ziwat, le mot de la fin, c'est pour vous.
Pareil, un grand remerciement aux entreprises qui sont avec nous et qui ont été déjà venues la semaine dernière. Nous avons encore une troisième émission. Donc, donc voilà, je suis vraiment très content de l'engagement, l'implication des entreprises qui ont accepté ce challenge avec nous. Donc moi, ce que je peux te, pour terminer, le label Amplitude, c'est un label au service de l'entreprise. Donc j'appelle les entreprises, étant donné que la responsabilité sociétale des entreprises maintenant devient un thème incontournable à la fois pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites entreprises. Donc pour toutes les entreprises qui souhaitent progressivement s'inscrire dans cette démarche, pour les entreprises qui veulent affirmer leur position d'acteur engagé sur le territoire, pour intégrer un réseau local, pour renforcer son attractivité, vous avez un outil d'inclusion, le seul outil d'inclusion au niveau national, qui est le label Amplitude. Le label Amplitude, c'est pas un label de communication, c'est un label qui est traduit par un certain nombre d'actions. Donc, au-delà de ce label-là, nous, on souhaite vraiment créer des synergies entre les acteurs, de créer du business, de créer des affaires, de créer de l'inclusion. Donc voilà, c'est vraiment une démarche intégrée, au-delà de la démarche d'avoir un label affiché au sein des locaux de l'entreprise.
C'est ça, sur sa vitrine.
Exactement.
À ceux qui pourraient être rebutés par en se disant « Oh là là, encore un label, et puis ça va nous prendre du temps, ça va nous obliger à être... » Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je vais leur dire, vous avez le droit, effectivement, de s'interroger, effectivement. Toutes ces remarques, effectivement, moi, j'ai commencé, effectivement, à travailler sur le label Amplitude depuis 2019. On a eu beaucoup de prudence, de scepticisme sur effectivement ce label-là, mais la force de la pédagogie, et il faut convaincre, il faut travailler, c'est un label qui vient en complément à l'ensemble des dispositifs existants. Vous avez parlé de la France une chance, ouvre-moi sa boîte, et ben le label Amplitude vient s'inscrire effectivement dans des dispositifs que l'État engage. Donc venez, vous avez tout à fait le droit de poser des questions et nous on est là pour effectivement vous convaincre que le label Amplitude peut être une opportunité pour vous.
Vous ne l'avez pas vécu comme ça, comme un... Vous, parce que vous disiez que c'était un gros dossier, Isabelle, donc vous ne l'avez pas vécu dossier, comme, mais... comme une contrainte.
Non, parce qu'en fait, l'équipe du Pli fait ça très très bien.
C'est bien
donc
fait.
On fait par petits bouts. J'ai dû avoir 5 réunions de 2 heures, en fait.
C'est ça, oui, oui. Donc,
où on transmet
tout à
des
fait,
infos,
gérable.
Voilà. Et après, c'est elles qui font toute la rédaction.
C'est ça.
C'est énorme.
Voilà.
Ouais, ouais. Voilà. Nous,
oui,
on a juste à sortir des justifs et expliquer comment on fonctionne.
Oui.
Voilà. Mais on n'a pas à l'écriture.
C'est ça, Hervé Degnaud.
Question. Oui, je confirme. On est très très bien accompagnés. Je crois qu'on n'a même pas fait 5 réunions, mais un travail. Une efficacité redoutable et il ne faut pas que ça soit un frein, vraiment, labellisez-vous.
C'est ça,
labellisez-vous.
Oui, oui, oui. Lauriane Bossou, pareil, le même sentiment, pas de contraintes évidentes à faire ce label, au contraire.
Au contraire, on ne voit même pas le temps passer.
Très bien. Ouais. Bah, écoutez, parce que le but, quand même, le but de ces émissions, c'est de fédérer de nouvelles entreprises. Hein,
exactement,
ça.
Exactement.
Et puis, on a accès à un réseau après énorme.
Oui, c'est ça.
Aussi.
Donc, c'est encore une fois gagnant-gagnant.
C'est gagnant-gagnant.
En tout cas, merci à la radio EDFM 98 pour cette mise en lumière de ces initiatives locales. Et voilà, la radio aussi, c'est une entreprise qui peut être labellisée.
Oui.
qui fait de la RSE.
On y réfléchit déjà.
Donc voilà, tout le soutien.
Absolument.
On apporte tout le soutien à cette radio citoyenne. Et vraiment, merci beaucoup, Jacqueline.
Merci. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été les invités en direct de l'émission. Et puis, merci pour vos parcours qui témoignent vraiment de votre ancrage dans les enjeux sociétaux. Merci, Christophe, pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Retrouvez comme bon vous semble le podcast de l'émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À 11h, c'est-à-dire dans quelques minutes, l'émission Balade musicale présentée par Christophe Graffreau. Mardi prochain à 9h30, tour d'horizon du Made in 95 avec Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. D'ici là, belle journée, bon week-end et surtout prenez soin de vous. Cheio de amizade e carinho, pois te damos simplicidade, viver nesse mundo sem barulho. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air, allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie, sucré et amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap-Horn, à écouter la mer, à écouter la monde. Y'a des voix là-bas qui voyagent, chérie. Mets de l'amour dans tes bagages. Bon, créons un monde paradis. J'ai des amis à des carines. Ouais, j'ai une âme simplicité. Vivez les mondes, c'est malade. Bon, créons un monde paradis. J'ai des amis à des carines. Ouais, j'ai une âme simplicité. Vivez les mondes, c'est malade. On est au pays des merveilles, chérie, à la vie, à Césaria sous le soleil, chérie, au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero Brasil, les fados, les playas, un peu Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage. Bon, créons un monde au paradis, j'ai des amis à des carines, ouais, j'ai une âme simplicité, vivez les mondes et malades. Simplicidade, viver nesse mundo sem maldade.
t'aime beaucoup, petit.